Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle édition consacrée aux élections législatives sur la première circonscription de Eure-et-Loir. Aujourd'hui, je reçois le tout jeune candidat du Rassemblement national, David Delorme-Montsarrat. Tout jeune, car je crois que finalement, vous êtes encore étudiant, c'est ça ?
Tout à fait, oui, je suis encore étudiant. Je prépare le CAPES d'histoire-géographie à la Sorbonne.
Oui, et vous avez fait donc Cagnes, Hippocagnes, donc vous êtes plutôt un littéraire et un historien.
C'est ça, voilà, je suis plutôt un littéraire, effectivement, ouais. Et historien de formation.
De formation. Alors donc, vous défendrez les couleurs du Rassemblement national lors de ces élections législatives. Alors, je veux dire, vous êtes un Chartrain, vous avez voté, donc, vous avez, pardon, étudié au lycée Marceau, je crois,
à Chartres. Tout à fait, c'est ça, au lycée Marceau, exactement.
Et donc, très très jeune, vous voilà propulsé dans l'arène politique. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous nous disiez ce qui vous a poussé à entrer en politique, primo, et deuxio, pourquoi au Rassemblement national ?
Alors, tout ce qui m'a poussé à m'engager en politique, c'est tout simplement l'état de mon pays, que chacun peut constater. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quand même quelque chose, que j'essaie de m'engager à mon niveau, et j'ai du respect pour tous les gens qui s'engagent, d'ailleurs, même ceux qui n'ont pas mes opinions. Et pourquoi le Rassemblement national ? Parce que c'était le... Donc je me suis engagé fin 2018 au Rassemblement national parce que c'était le parti qui correspondait le plus à mes idées, qui lutte pour donner plus de sécurité, en règle générale, aux Français, sécurité physique, bien sûr, contre la délinquance, sécurité économique, le pouvoir d'achat, l'emploi, etc., et sécurité aussi culturelle, c'est-à-dire essayer de protéger notre identité, de faire que la France soit encore la France d'ici plusieurs années.
Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que finalement, c'est l'état de votre pays qui vous conduit à engager. Il est dans quel état, selon vous, notre pays ?
Ah, notre pays est dans un état assez, assez problématique. C'est... Bien sûr, il y a plein de problèmes différents, donc les problèmes que j'ai déjà cités, donc bien sûr la délinquance, il y a la question de l'emploi, la question de la... Alors, des thèmes bien sûr très, très prégnants en Eure-et-Loir comme la santé, etc., le prix des carburants, il y a l'immigration massive qui a des effets sur notre identité, qui fait que beaucoup de Français ne se sentent plus forcément chez eux... Et donc, c'est tout un tas de problèmes comme ça, des problèmes institutionnels aussi, qui font qu'on ne donne pas assez la parole aux Français. Ils n'ont plus confiance en la démocratie, ils n'ont plus confiance en leurs élus, en fait. Et c'est très problématique, tout ça.
Ouais. Alors, oui, et vous, puis pardon, vous encartez au Front National du temps de Le Pen, père.
J'aurais pu m'y encarter, tout à fait.
Malgré l'odeur de soufre que dégageait le personnage, parfois, et certains de ses propos.
Alors, c'est vrai, c'est bien sûr, on ne peut pas le nier. Mais disons que Jean-Marie Le Pen a fait des choses pour le camp national. C'était un patriote, il a fait beaucoup pour le camp national. Il y a eu bien sûr un plafond de verre, évident, du fait de ses dérapages, de certaines de ses bêtises, etc. Mais... je pense que oui, j'aurais pu m'y engager. Après, ça dépend à quelle époque. Évidemment, ça n'a pas forcément beaucoup de sens de dire ce qu'on aurait fait à une autre époque. J'aurais été une personne différente, etc.
C'était pour mieux cerner, finalement, votre propre idéologie. Parce que oui, on a quand même le sentiment que entre le Front National et le Rassemblement National, il y a un changement de logiciel quand même.
Bien sûr, il y a un changement. C'est-à-dire que maintenant, on a un parti plus avec une image beaucoup plus sérieuse. On montre qu'on peut gouverner. On s'est passé du bruit et de la fureur, comme dit Marine Le Pen. Maintenant, voilà, on fait des propositions. On dit, on est prêt à gouverner, on peut gouverner, on est compétent, on a un programme social bien plus développé aussi qu'avant. Il y avait une époque où le FL avait un programme moins social, ce qui m'aurait moins plu personnellement. Et voilà, sur beaucoup de questions, on a effectivement évolué.
Oui. Dès lors que Florian Philippot a quitté le Rassemblement national, Marine Le Pen a renoncé au souverainisme. Finalement, que reste-t-il aujourd'hui ? Quel est le vrai squelette idéologique du Rassemblement national ? Ses références, on va dire.
Alors, je dirais que c'est assez intéressant, ça, parce que je ne dirais pas qu'on a renoncé au souverainisme. C'est-à-dire que le souverainisme, à mon avis, n'est pas contenu entièrement dans la question du Frexit. C'est-à-dire qu'on a effectivement renoncé au Frexit, parce que finalement, le Frexit était un moyen et pas une fin en soi. C'est un moyen pour retrouver notre souveraineté et après notre identité, etc., et tout un tas de choses. Et c'était pas absolument nécessaire, finalement, de continuer à défendre le Frexit. Beaucoup de gens sont un peu dubitatifs par rapport à cette question. Et maintenant, en plus, qu'on a potentiellement des alliés en Europe, ça change un peu la donne. On est la France, on peut imposer nos vues à Bruxelles. Et donc, le Frexit n'est pas une nécessité absolue. En fait, on est souverainiste, on reste souverainiste, on est souverainiste, on est patriote. On n'est pas spécifiquement de droite. On n'est finalement ni vraiment de droite, ni vraiment de gauche. Il y a des gens chez nous qui se disent de droite, qui se disent de gauche. Moi, je me dis plutôt de droite. Mais on a des gens qui, c'est assez varié, on rassemble tous les patriotes, on a le rassemblement national des nationaux, de ceux qui veulent placer la France en tête de leurs préoccupations.
Vous aurez affronté, entre autres, ici, sur la première circonscription de Haute-Loire, un candidat zémourien, Cyril Emaldinquet. Est-ce qu'on peut parler d'un duel fratricide ? Ou est-ce qu'il y a des différences entre vous, fondamentales entre vous et les zémouriens ?
Je dirais pas un duel fratricide. Je dirais qu'il y a des différences, bien sûr. Alors, on est d'accord sur beaucoup de points, bien évidemment. On appartient à un même pôle un peu commun, le pôle national, voilà, des patriotes. Hein. Je n'y ai absolument pas qu'ils soient pleinement patriotes. Et d'ailleurs, j'appelle les électeurs de Reconquête à se tourner vers le Rassemblement national, comme beaucoup l'ont fait à la présidentielle. Mais bien sûr, il y a des différences, surtout sur les questions socio-économiques. Ça, c'est des questions assez évidentes. Et à mon avis, c'est vraiment un point mort de Reconquête, parce que...
Reconquête est trop à droite, c'est ce que vous dites, finalement.
Trop libéral. Je dirais pas trop à droite, je dirais trop libéral. Voilà. Parce que c'est... Parce que dans ma conception de la droite, il faut être social, etc. Justement, c'est très important à mon avis. Et je pense que c'est un point mort par rapport à ça, sur le pouvoir d'achat, sur les emplois, etc. Beaucoup de gens ne vont pas vouloir voter pour la retraite à 64 ans, il me semble, pour Zemmour, ou ce genre de choses-là.
Alors, quels sont, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, vos axes de campagne et la nature de votre campagne? Est-ce que vous allez vous promener un petit peu dans toutes les zones rurales de l'Europe? Parce que c'est quand même une circonscription assez rurale.
Tout à fait. Voilà, ça, effectivement, vous faites bien de le rappeler. Il y a Chartres, mais il y a aussi toute une partie de la circonscription qui est très rurale, bien sûr. Évidemment, il s'agira d'aller rencontrer les gens sur les marchés, etc., d'aller déposer des trucs dans leur boîte aux lettres aussi. C'est très important, je pense, ça, pour leur permettre de connaître le candidat, voir les affiches, etc. Et donc, les axes de campagne, donc des axes qui, à mon avis, intéressent les Euréliens en général, principalement le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, donc c'est un département aussi qui a été très touché par le mouvement des gilets jaunes. Hein. Il y a eu beaucoup de gilets jaunes chez nous, etc. Parce que, bien sûr, le prix des carburants, évidemment, c'est une problématique importante ici. Nous, on propose la baisse de la TVA à 5,5% pour les énergies, dont les carburants, dont l'essence. Donc c'est très important, ça, je pense, pour nos compatriotes. Pour les jeunes, principalement aussi, parce que les jeunes peuvent avoir pas mal de problèmes à trouver de l'emploi, etc., à gagner de l'argent, l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, un chèque formation aussi de 200 à 300 euros pour les apprentis. Nous proposons aussi pour la santé, thème très important bien évidemment, puisque le Haut-Loire, s'il y a un problème de désert médical absolument, absolument fondamental, des gens souvent âgés en plus dans la ruralité qui doivent faire des kilomètres en voiture pour trouver un médecin, une pharmacie, etc. Nous proposons des mesures d'incitation pour les médecins, il ne s'agira pas de les forcer évidemment à aller en zone rurale. Mais pour les jeunes médecins, on propose donc une différenciation du prix de consultation, ce qui pourrait les inciter à venir s'installer en zone rurale.
Alors, qu'est-ce que vous appelez une différenciation donc,
C'est-à-dire, en gros, ils seraient plus payés, finalement, quand ils s'installent dans des zones rurales, dans des zones qui sont désertifiées au niveau médical.
Oui. Je voudrais qu'on parle de l'emploi, parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, oui, évidemment. Bon, le chômage a tout de même un peu baissé là, durant ces 5 dernières années. Et le problème, c'est que donc on a des entreprises, notamment en Eure-et-Loire, il y a deux entreprises de la Cosmetic Valley qui voudraient bien embaucher, qui n'y arrivent pas. On a un problème de quoi ? De formation professionnelle ? Ou est-ce que ça veut dire que les Français ne veulent plus faire certains travaux ?
Je pense que c'est un... Il y a des causes variables, bien évidemment, au chômage, problème de désindustrialisation, bien sûr, problème de distance, souvent, bon là encore une fois, il y a la problématique rurale qui est évidente, problème de distanciation, etc. Il faudra revaloriser les transports en commun, d'ailleurs pour les transports, par rapport à ça, pour les jeunes, on propose justement la gratuité des transports pour les jeunes de 18 à 25 ans sur les heures creuses, ce qui, à mon avis, changera beaucoup la donne pour ce genre de choses-là. Donc il y a tout un tas de problématiques à prendre en compte pour l'emploi.
Oui. La formation professionnelle quand même, parce que c'est quand même inquiétant de se dire que voilà, des entreprises qui veulent lancer des lignes de production ne peuvent pas, tout simplement parce qu'il n'y a personne pour venir y travailler. C'est quand même un gros problème, ça.
C'est effectivement un problème, c'est pour ça qu'on veut booster la formation, donc pas par le chèque formation par exemple dont j'ai parlé, pour les apprentis et leurs employeurs. Ça permettra donc à des jeunes de pouvoir se former pour un métier, etc., pour le métier qu'ils veulent, qui peut-être leur offrira un emploi là où ils sont, pas les forcer à aller très loin, à devoir faire forcément des kilomètres en voiture tous les matins et tous les soirs. Après, c'est aussi tout le système éducatif qui pose problème d'une certaine manière. Il y a aussi ça. Je ne suis pas pour un système éducatif qui soit totalement réglé sur le marché du travail, mais il faut prendre en compte ça. Il faut prendre en compte ce réalisme de, bien sûr, le système éducatif, il y a la transmission de connaissances, bien sûr, qui est une valeur en soi. Moi, je suis un futur enseignant, pour moi, c'est, je veux apprendre des choses à mes élèves. Je pense pas forcément, oui, à quoi ça va leur servir plus tard. Mais je me dis, voilà, faut transmettre des connaissances, mais il y a aussi, après, derrière le marché du travail, il faut revaloriser les filières professionnelles, par exemple, aussi, qui sont absolument fondamentales pour l'emploi derrière.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'identité de la France, vous l'avez dit. Finalement, vous avez peu parlé, Marine Le Pen a peu parlé de l'identité de la France, beaucoup moins que Zemmour en tout cas. C'est quoi l'identité française selon vous aujourd'hui ?
L'identité française, je pense que c'est... déjà, c'est une sorte... On a une identité civilisationnelle européenne, voilà, qui est fondée sur trois piliers, que sont la Grèce, Rome et la chrétienté. Finalement, c'est nos racines européennes. Et l'identité française, précisément, c'est une identité qui a été forgée au cours des siècles pendant... 1500 ans, on peut le dire, finalement, depuis le baptême de Clovis, en fait, très très lentement, c'était pas la France, évidemment, pour en parler à l'époque, mais par cette longue histoire de plus de 1000 ans, on a une identité qui s'est forgée à partir même de plusieurs cultures régionales un peu différentes, plusieurs langues différentes. Ça a formé un seul peuple français, finalement, avec plusieurs événements qui ont été peu à peu, qui nous ont forgés comme nation. Et voilà, et la nation française a cet honneur de pouvoir accueillir des gens qui arrivent de l'extérieur, qui sont d'ailleurs et qui peuvent devenir d'ici, en s'assimilant, en adoptant nos valeurs, nos mœurs, etc., en respectant nos lois. Et ça, je pense que c'est une grande chance aussi pour la nation française. Mais pour cela, eh bien, il faut donc logiquement réduire l'immigration, parce qu'on ne peut pas assimiler des populations entières, il faut assimiler des individus qui viennent donc avec cet esprit aussi de s'assimiler, de devenir français, de devenir vraiment membre de notre peuple, de la communauté nationale.
Est-ce que ce peuple, il existe encore ? On a l'impression que la France, et là, beaucoup d'indicateurs le disent, des spécialistes, des sociologues, que ce pays est totalement fragmenté aujourd'hui. On ne parle pas seulement de fragmentation ou de séparatisme par rapport aux banlieues, mais... que ce pays, il est en 1000 morceaux.
Alors évidemment, bien sûr, il y a des fragmentations évidentes, surtout sur le plan socio-économique. Les gens qui, je le disais tout à l'heure, qui n'ont plus confiance en les élus, en les institutions, etc. Et effectivement, c'est pour ça qu'il faut... On reste tout de même un peuple. On reste de toute manière tout de même un peuple. Il y a toujours une conscience, en plus, des gens qui ils savent qu'ils sont français, qu'on est tous français, etc. On a cette forme de sentiment qui est évidente. Mais bien sûr, il va falloir pour... faire de nouveau, enfin pas vraiment faire de nouveaux peuples, mais être à nouveau fusionnés ensemble, il va falloir effectivement réduire un certain nombre d'injustices, d'inégalités, de manque de confiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis d'autres choses, et effectivement il va falloir travailler là-dessus, et surtout sur le plan socio-économique.
Il nous reste, allez, 30 secondes, un bon député, c'est quoi ?
Un bon député, à mon avis, c'est quelqu'un qui connaît déjà les préoccupations des Français, qui sait ce que c'est, ce que vivent les Français, et qui fera ce qu'il dit aussi, qui s'engage à être élu pour faire ce qu'il a dit.
David Delorme, bon Sarah, merci beaucoup.
Je vous en prie.